vor.
Qu'est-ce qui peut me rappeler à quel verset nous sommes arrivés? C'est pas que je sais pas, mais je voudrais savoir si vous savez. Quel est le dernier sujet que nous avons étudié? Quel est le dernier sujet? Un seul à la fois. C'est quoi? Quel sujet? Parle plus fort. Hanor, oui. Est-ce que je peux avoir du silence, s'il vous plaît?
Et en fait, ce fils, ce sera l'éducateur. Il devra éduquer
Non, ne rentre pas dans les détails. Quel est le sujet qu'on a étudié à propos de Hanor? Non, c'est elle qui parle. Parle plus fort.
Avec le sursis.
Oui, et en quoi il consistait? Tu me rappelles des bribes de l'étude. Ça veut dire que vous ne prenez pas suffisamment de temps pour revoir ce que vous avez appris. Bon, c'est juste un petit sondage, mais si vous vous engagez pas à préparer vos cours, c'est pas la peine de continuer. Je vous dis ça parce qu'on a très peu de temps pour étudier un sujet qui est très très vaste, du point de vue de la quantité de textes. Alors si vous n'arrivez même pas à vous rappeler ce qu'on a étudié la semaine d'avant, c'est pas la peine de continuer. Je vous dis ça très sérieusement. Vous savez, personne n'a de temps à perdre, ni vous ni moi. C'est pas normal. Lis-moi les notes que tu as prises là-dessus. Parle plus fort, je n'entends pas.
J'ai
vu
la traduction.
Oui. Oui, mais bon, ça c'est la traduction. Ensuite.
Le frère a disparu.
Oui.
C'est peut-être le fils qui prend la relève. Relation du fils au père plus facile que la relation au père. Le fils sera.
En fait, je vous avais précisé, je vous ai dit l'inverse. La relation du père au fils, c'est-à-dire l'autrui. C'est le fils et puis le frère. Donc c'est la relation du père au fils, pas du fils au père. Puisqu'on est dans l'apprentissage de la relation de fraternité. Alors directement avec le frère, ça a échoué. C'est Caïn Abel. Et par conséquent, il y a un autrui qui est suscité, qui est le fils. Donc c'est la relation entre le père et le fils. C'est le père qui doit être en apprentissage de fraternité. Il n'a pas pu avec son frère. Peut-être ça sera possible avec son fils. Et c'est clair? Donc, alors continue. Oui, comment ça a échoué?
Ça a échoué parce que Caïn a rendu objet son fils il a nommé la ville, il a créé une ville et il a nommé la ville.
Pas créé, il a construit une ville.
Et il a nommé la ville Hanor. Et en fait, c'est ça qui a fait l'échec.
Et en quoi c'est l'échec? Mais explique en quoi il y a échec. Le fait d'avoir donné le nom de Hanor à la ville, en quoi c'est un échec?
Donner le nom de son fils à une ville,
c'est... Ça, c'est ma question, mais j'attends la réponse.
Il a donné le nom de la ville.
Non, il a donné le nom de son fils à la ville, et ça signifie quoi? Ça implique quoi? Qui pourrait répondre? Non. Il est possible que tu aies compris, mais tu ne l'exprimes pas. Qui pourrait expliquer cela, ce point précis? Le fait de donner le nom, de prendre le nom de l'homme et de le donner à la ville, en quoi il y a échec du problème moral? Qui? Ken?
Le problème qui se pose, c'est le sujet qui est dérangé. On parle à la dignité humaine et abstraite et présente.
Oui, mais dans ce cas particulier, en quoi ça consiste cet échec? Tu as compris de quoi il s'agit?
C'est un échec pour la dignité.
Mais tu répètes ma question. J'ai vu. En quoi c'est un échec pour la dignité humaine de donner le nom de l'homme à la ville? C'est ça que je veux entendre. Tout ça, c'est des définitions exactes, mais ça ne répond pas à ma question.
Peut-être qu'il y a un mauvais enjambement.
Explique, je comprends pas ce que tu veux dire.
En fait, que c'est un appel à d'autres.
Non.
D'autres mauvais
enjambements. C'est pas clair ce que tu me dis là. Je sais même pas si toi-même tu comprends ce que tu dis.
Non, c'est la porte ouverte, c'est la porte ouverte à beaucoup de. Peut-être qu'il va donner le nom de son fils à.
Il y a quelque chose de beaucoup plus simple que je voudrais entendre. Tout ça, c'est pas faux, mais ça répond pas à la question. Qu'est-ce que tu veux dire?
Il a matérialisé son fils dans le nom de la ville. Il a matérialisé.
Écoutez, je veux dire, quelqu'un qui n'aurait pas étudié. Laisse-moi parler. Quelqu'un qui n'aurait pas écouté le cours la dernière fois ne comprendrait rien à ce que tu dis. Des mots. Alors, c'est un exercice que vous êtes en train de faire et qui est important, on le refera souvent. Essayez d'expliquer à quelqu'un qui n'a pas entendu ce cours, donc à qui vous parlez, ce que vous voulez dire, de telle sorte qu'il le comprenne. Je vais te dire un secret. Je comprends ce que tu veux dire parce que c'est moi qui t'en ai parlé. Sinon, je comprendrais rien. Et essayez de vous écouter parler. Alors, je reprends la question et tu vas essayer de répondre. Alors, on est parti d'une définition très simple. Ce que la Torah nous raconte, c'est que Caïn, en tant que fondateur d'une civilisation, a construit une ville, une cité. Et il a donné le nom de son fils à la cité. Alors, en quoi ceci représente un échec du problème moral? Je ne reviens pas en arrière de ce qu'on a déjà élucidé. C'est un substitut de la relation de fraternité du frère au frère. C'était celle de la relation entre le père et le fils. Peut-être que autrui et autrui, dans cette équation-là, le père et le fils, c'est plus facile à résoudre. Mais voilà que Caïn est lui-même responsable de l'échec, et tu nous diras tout à l'heure en quoi est l'échec, en donnant le nom de son fils à la ville. Alors essayez de faire le lien entre ce que le texte dit et l'explication, enfin le sens que ça a, mais essayez de l'exprimer de telle sorte que celui qui vous entend comprenne. Alors fais l'effort de me répondre, mais ce n'est pas à moi que tu réponds. Tu réponds à quelqu'un qui n'a jamais étudié ça. Je t'écoute. C'est-à-dire le meurtre de Abel par Caïn.
Oui.
Continue. Eh bien, c'est ça ma question. Tu répètes ma question. En quoi?
Par le fait qu'il ait donné le nom de.
Regarde, je te répète encore une fois. On va aller lentement. Quelqu'un qui n'a jamais entendu ce que la Torah dit à ce sujet, et est-ce que tu crois qu'il va comprendre ce que tu lui dis? Le fait de donner le nom du fils à la ville, ça aboutit à l'échec du problème moral, quelles que soient les formules que vous avez employées, qui sont d'ailleurs pratiquement exactes. De transformer le sujet en objet, mais on n'entend pas, on ne comprend pas comment ça s'est passé. Vous répétez la question en croyant que vous avez répondu. Vous connaissez cette phrase de logique très simple. Quand on vous demande qu'est-ce que ça veut dire blanc-bonnet, alors on répond bonnet blanc. Mais c'est ça qui se passe. Non, mais moi ça ne m'étonne pas, j'ai l'expérience depuis 50 ans, ok? Que c'est un défaut de logique, tout simplement. C'est pas que vous n'avez pas compris, vous ne savez pas vous exprimer. Mais c'est pas votre faute, on ne vous l'a pas enseigné à l'école. Hein. Dans le système de l'école française, et il manque quelque chose, apprendre aux élèves à raisonner. Et vous allez vous en apercevoir vous-même. ce que vous dites n'est pas faux, mais ça n'a aucun rapport avec la question qu'on vous a posée. Et vous allez voir à quel point la réponse est simple. Seulement, il faut vous habituer vous-même à faire ces exercices, essayez même par écrit, essayez de formuler ce que vous pensez avoir compris, et vous verrez le résultat. Je n'ai pas relevé un certain nombre de mots qui n'étaient pas exactement à leur place, pour ne pas perdre de temps, mais je vous rappelle le conseil que je vous ai donné la dernière fois. Quand vous apprenez quelque chose, retenez-le de la manière exacte dont vous l'avez appris. Si vous changez un mot, vous changez le sujet. Tout à l'heure, en parlant de la relation d'autrui à autrui, qu'ajouter un terme que moi je n'ai pas employé et qui est complètement faux dans l'analyse, c'est le terme de égal. Le fait qu'on ait une relation de dignité d'autrui à autrui, ça ne veut pas dire que l'un est égal à l'autre. Je vais vous donner cet exemple-là, mais réfléchissez, vous êtes là pour apprendre. N'ayez pas de je ne sais pas comment dire en français, vous allez découvrir qu'il faut tout apprendre. Et la grande difficulté, je vous le répète, et c'est vraiment artificiel, c'est qu'on apprend ces sujets hébraïques avec une langue comme le français. Ça multiplie la difficulté. Si vous étiez capable d'étudier tout de suite en hébreu, vous verrez à quel point c'est beaucoup plus simple pour vous. Les faux problèmes viennent de l'imprécision de sens des mots français que vous avez parce que votre français n'est pas précis, n'est pas exact, à cause du raisonnement, pas à cause des connaissances littéraires. Il y avait dans les lycées avant en France une classe qu'on appelait la classe de rhétorique et qui avait pour objet pendant un an d'apprendre aux élèves à raisonner. Vous savez que c'était les rhéteurs dans l'Antiquité grecque. Vous voyez tout ce qui a disparu de l'enseignement en France. Et surtout depuis 68, ça s'est complètement effondré. Enfin, malgré tout, ce qui manque, c'est... Et ça se ressent dans les universités ici, quand on reçoit des étudiants de l'étranger, c'est d'avoir appris à raisonner. Or, dans vos études, vous découvrirez que les différentes cultures ont des manières de raisonner différentes. Un raisonnement anglo-saxon, un raisonnement français, un raisonnement germanique ou slave, ce n'est pas exactement les mêmes règles. Mais au moins, puisque vous êtes de culture française, raisonnez en français. Et vous voyez le paradoxe que je vous dis. L'objectif, c'est que vous appreniez la Bible, enfin la Torah, en hébreu. Mais comme votre langue culturelle, c'est le français, pour comprendre, il faut le comprendre en français. Et vous voyez, tous ces petits sondages, c'est pour vous montrer que... bon, maintenant, on est à peine au début de l'année, mais vous allez voir, vous arrivez à la fin de l'année, vous vous apercevrez, vous ne comprenez rien. Aucun verset de la Bible. Si vous continuez à faire ces approximations. Il faut retenir les choses par cœur et de manière exacte et précise. Vous habituerez à ça, surtout ceux qui sont destinés à faire du Talmud par la suite. Vous apercevrez que si on change une virgule, tout change. Je ne vous dis pas ça pour me répéter, mais je serai obligé de vous le répéter souvent, parce que vous ne prenez pas attention à cela. Et je veux dire une des raisons. Il y a une espèce de coquetterie, je ne sais pas quel mot employer, parce que vous savez, moi aussi, le français m'échappe et c'est un bien. Quand je rêve en hébreu, grâce à Dieu. Mais une espèce de coquetterie, je ne sais pas comment dire, d'orgueil mal placé, de croire que c'est honteux de ne pas mettre quelque chose de son propre cru dans ce qu'on est en train d'apprendre. Est-ce que c'est clair l'idée, Ken? Et c'est très juif, ça, comme réaction. Ken, on se croit, comme on dit en français, pas insulté, mais on se croit... on est blessé de croire que vous apprenez quelque chose qui ne vous appartient pas d'abord, mais qui vous appartiendra quand vous l'aurez appris, c'est la Torah. Alors il faut l'apprendre comme elle est. Et commencer à interpréter avant de savoir de quoi il s'agit, et ça vous empêchera de comprendre. Je ne sais pas si dans les autres cours on vous fait cette discipline d'études, mais en tout cas avec moi, ça va être serré. Et je vous le répéterai chaque fois, les choses exactes comme elles sont. Et vous vous apercevez, ce que j'espère par vous-même, ce que je suis en train de vous dire, vous déplacez un concept, vous avez changé de sujet. Et vous en apercevrez à chaque interrogation. Alors je reprends cette histoire de Hegel. Je veux dire une chose, la grande catastrophe dans le problème moral, c'est de croire que les hommes sont interchangeables comme des objets. Il n'y a que des objets qui sont égaux. Aucun homme n'est égal à un autre homme. Je sais très bien que l'humanisme européen se sert de formules de ce genre. Mais il faut le comprendre dans les langues originelles de l'Europe. Lorsqu'on parle d'égalité, de dignité, On ne parle pas d'égalité d'existence. La dignité, l'égalité de dignité, c'est une notion d'ordre moral. Mais ça ne veut pas dire que cette égalité de dignité des personnes aboutit au fait que les personnes sont interchangeables, qu'elles sont égales dans le sens mathématique. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire ? Et par exemple, la Constitution française commence par « les hommes naissent libres et égaux en droit ». Je raconte une anecdote de mon service militaire dans l'armée française d'ailleurs, et vous verrez que c'est faux. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Si c'est une égalité de dignité, il faut le comprendre, chacun a les droits propres à sa personne. Je vous donne un exemple. Moi, comme je mangeais cachère à l'armée, alors il y avait, je ne sais plus comment c'est, vous avez fait votre service militaire dans l'armée française ? Personne. Et vous le ferez dans l'armée israélienne. Si vous n'êtes pas général dans 2 ans, gare-vous. Et alors, on avait ce qu'on appelait le pré-franc, c'est-à-dire les gens qui mangeaient cachère avaient le droit, à la suite de démarches très compliquées, maintenant c'est plus facile, avoir une somme d'argent équivalente à ce que l'armée dépenserait à la cantine pour leur donner à manger. Mais, et alors on avait donc une somme, on se débrouillait pour manger cachère, tout ça. Mais chez les goïms, il y avait des gens qui avaient besoin de manger double. Et alors, il y avait des procès à l'armée pour attribuer une double portion pour les gens à qui ça ne suffisait pas, la portion habituelle. Vous voyez, chacun d'après sa capacité d'estomac. Alors, vous allez dire qu'il y a une égalité de droit. Les estomacs ne sont pas égaux. Le droit, c'est d'avoir l'estomac plein. Mais ce n'est pas la même quantité égale de nourriture qui va remplir l'estomac de 2 personnes différentes. Alors, vous aviez des soldats qui avaient faim parce qu'ils n'arrivaient pas à manger la double portion. Alors on leur donnait qu'une portion, et comme ils avaient besoin d'une et demie, c'était ou une ou deux. Alors vous voyez ce système d'égalité, à quoi ça aboutit. Voilà, c'est une anecdote. Hein. Mais pour remettre en évidence à quel point on pense faux, on parle faux, lorsqu'on ne sait pas employer les termes qu'on emploie avec leur sens exact. Je vais vous dire comment on apprend en hébreu, que à propos des personnes, c'est l'échec de la morale de penser que 2 personnes sont égales. Encore une fois, retenez bien ce que je vous ai dit. Il y a une égalité de dignité personnelle. Ça ne veut pas dire que les personnes sont égales. Est-ce que c'est clair ? Bon. À part ça, peut-être on y arrivera un jour à parler de ça. La Constitution française, c'était au niveau philosophique, au niveau abstrait, une révolution des idées dans le monde entier. La Révolution française a amené l'idée de liberté, égalité, fraternité. Comment ça s'est réalisé dans la société française ? Tout de suite, c'était un échec. Quelques années après, c'était l'Empire français. Et imaginez la différence entre la Première République et l'Empire. Et puis, ça, peut-être on en parlera un jour, mais ce qui manque, c'est qu'on ne parle que des droits et on ne parle pas des devoirs. Si les gens obéissent à leurs devoirs, personne n'aurait à réclamer ses droits. Et oui, c'est une civilisation à l'envers. Bon, mais je reviens au sujet. Dites-moi comment en hébreu on dit égal. Shavé. Et comment on dit vin. V-A-I-N. Shav. Bon. Vous voyez, c'est à peu près le même mot. Dans shavé, il y a un hé à la fin. Et dans shav, il y a un aleph à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire, ce rapprochement de ces deux mots ? Que si 2 choses sont égales, il y en a une des deux qui est vaine. Est-ce que c'est clair ? Alors vous voyez à quel point ça peut mener à des catastrophes lorsqu'on établit une équation d'égalité des personnes. La notion d'égalité n'est valable que pour les objets. Alors dès que vous parlez d'égalité au niveau des personnes, vous avez un système moral qui aboutit précisément à cet échec de Caïn. C'est l'administration de la cité et c'est plus les relations morales entre elles. C'était la réponse que je cherchais dans ce que je vous demandais. Vous voyez, le seul fait que tu introduis le mot de égal, ça montre que tu as réfléchi dans la mentalité de la culture européenne, mais pas du tout dans ce que dit le texte en hébreu. Il s'agit, encore une fois, de la relation d'altérité entre un et son autre, et la relation d'altérité n'est pas univoque. Elle est différente de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Ça, on a déjà appris à propos de Caïn et Abel. Il ne faut pas oublier ce que vous avez appris avant. Tu ne peux pas dire, si je prends l'équation Caïn et son fils Ranor, que le fils est égal au père ou que le père est égal au fils. Il s'agit d'une relation de fraternité qu'on va essayer de construire sur l'échec de la relation de frère à frère qui a échoué. Et alors, je ne voudrais pas passer trop de temps pour expliquer la signification de l'intériorité de ces mots. Ça, c'est votre expérience culturelle et spirituelle qui vous permettra de comprendre à votre manière de quoi il s'agit. Ma condition, que la forme des connaissances soit exacte. Ce que vous mettrez dedans, c'est votre expérience. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. D'ailleurs, je suis persuadé que vous avez dû comprendre ça par vous-même. Chaque fois que vous apprenez une connaissance nouvelle, bien, chacun l'illustre à sa manière d'après sa propre mémoire, et d'après sa propre existence, et il y a des illustrations différentes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est, de manière exacte, c'est les formules que vous apprenez en tant que connaissance. Alors, je termine sur cet petit exemple qui était une parenthèse, et je vous explique de quoi il s'agit. Certainement, vous l'avez déjà compris en mémoire du cours de la fois précédente. Donc, il faut vous habituer à savoir le formuler. En attendant, si n'utilisez pas des connaissances que vous avez apprises, si quand vous parlez à d'autres, quand vous enseignez à d'autres, si vous ne savez pas les formuler. Mais si vous les formulez, formulez exactement comme vous les avez apprises. Alors, voilà donc quel est le problème. Le fait que ce soit la ville qui est le nom. Or, le nom représente la valeur. La valeur de la personne humaine, sa dignité, est représentée par son nom. On prend à l'homme la valeur et la dignité, on la donne à la ville. On substitue le problème de l'administration de la cité au problème moral. Ce n'est plus des relations de personne à personne, c'est des relations d'une administration avec des administrés. Voilà ce qui se passe dans ce changement. Le fait de donner à la ville le nom de l'homme. Après, je vais vous prendre l'exemple que je vous ai donné, pour que ce soit bien clair. Et alors, à la limite, cet échec mène à la société fonctionnelle, c'est-à-dire où la personne humaine n'a plus aucun droit de valeur, de dignité, ce sont les fonctions qui priment. On va le voir dans le texte par la suite. Si vous avez étudié je ne sais plus comment vous dites en français, de la science-fiction, est-ce que vous avez lu un livre comme Le Dernier des Mondes? Vous savez de quoi il s'agit? De quoi je parle? Non. Mais vous lisez de temps en temps quoi? Les bandes dessinées? Qu'est-ce que vous lisez? Les pieds nickelés? Il faut récupérer toute cette je sais pas comment dire, cette culture minimum pour être un homme cultivé, ou une femme d'ailleurs. J'espère au moins que ça vous fera découvrir ça. Le fait de ne pas lire, ça dessèche l'esprit. Lisez, et surtout lisez des choses bien écrites. Et puis essayez de retenir ce que vous lisez. Sinon, vous allez avoir l'esprit vide. J'avais un maître qui expliquait l'expression française quand l'esprit broie du noir. Il comparait la pensée à un moulin. Si un moulin tourne à vide, on ne lui donne pas du blé à moudre, alors il broie du noir. Et c'est le tort du système éducatif qu'on vous a imposé en France, par exemple, et dans l'éducation traditionnelle juive, des enfants de 10 ans discutent avec Maïmonide de choses sérieuses. Tandis qu'à l'école française, eh bien, ou européenne en général, on vous fait des exercices complètement idiots qui remplissent l'esprit de fadaise, alors qu'on est en train de devenir adulte et qu'on voudrait bien penser à des choses importantes. Voilà ce qui manque. Et je ne sais pas si vous avez fait des exercices d'anglais en classe de quatrième. Le chat est assis à côté de la table. Répète. Voilà à quoi on s'occupe. Vous voyez ce que je veux dire? Alors méfiez-vous de ça. En tout cas, quand vous élèverez vos enfants, envoyez-les au Talmud Torah. Ne l'envoyez pas ailleurs. En tout cas, pour revenir au sujet, il y a une impasse totale du problème moral parce que c'est plus l'homme qui compte. Le nom a été pris à l'homme, on l'a donné à la ville. Voilà, c'est ça que vous avez entendu, c'est ça que vous avez compris, vous n'arrivez pas à exprimer. Il ne faut jamais, quand on répond à une question, répondre par la question elle-même. C'est parce que c'est ça qu'on demande. Alors je vais vous dire les termes techniques. On a substitué au problème moral le problème social. Les relations de société au lieu des relations de personne à personne. Est-ce que c'est clair? Et vous verrez d'ailleurs, vous en aurez une expérience avec la bureaucratie israélienne. La bureaucratie en général, mais la bureaucratie israélienne a une histoire très particulière parce qu'elle s'est formée dans la clandestinité dans le régime, sous le régime anglais, c'est-à-dire les Israéliens qui ont préparé les premières structures du gouvernement israélien, enfin l'État israélien, c'était des résistants contre l'administration anglaise. Alors ce qui fait que, encore maintenant, il y a une habitude dans les administrations israéliennes, aucun fonctionnaire n'a un dossier entier. Ils n'ont que des morceaux de dossier, ils vous font aller d'un bureau à l'autre, d'un bureau à l'autre. C'est la bureaucratie dans toute son horreur. Ça, c'est la mentalité des Juifs d'Europe centrale administrée par les Anglais. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du résultat. Ça, c'est la bureaucratie israélienne. Okay, avec une mentalité de résistant, en plus de clandestinité. Je ne sais pas si vous avez eu déjà affaire avec des pkidim, hein, quand ils ont fini leur tasse de thé et qu'ils ont fini de téléphoner à la voisine. Alors, ils vous demandent ce que vous voulez. Vous avez attendu une heure et demie. On dit, ah, mais c'est pas ce bureau. Pourquoi? Parce que la feuille d'à côté, elle est dans une autre rue. Mais je vous explique d'où ça vient. Ça vient du temps de la résistance contre les Anglais. Okay, et c'est pas encore évacué. Alors, vous voyez la grande tâche que vous avez pour aider le pays. Amener le raisonnement cartésien en Israël. Mais si vous ne le possédez pas, qu'est-ce que vous allez amener? Vous avez compris? Alors, je reviens au... Je reviens au sujet. L'exemple que je vous ai donné, c'est l'exemple d'Israël. Actuellement, pratiquement, c'est le seul cas, alors que dans les sociétés de l'Antiquité, c'était la règle générale, c'est le peuple qui est nommé et pas le pays. Le pays s'appelle pas Israël. Le pays s'appelle Eret Israël. C'est le peuple qui s'appelle Israël. Vous avez compris le cas particulier que représente la tradition juive dans ce problème. Je vous ai donné le... Comme on n'a pas encore tout Eretz Israël, alors ça s'appelle Medinat Israël. Mais quand on aura tout Eretz Israël, le pays, le nom du pays traditionnel, c'est Eretz Israël, c'est pas l'Israël à la française, comme on dit le Portugal. Et d'ailleurs, c'est très passionnant d'étudier pourquoi les pays, certains s'appellent au féminin et d'autres au masculin. Pourquoi on dit le... Je sais pas moi, la France, j'allais dire... J'allais dire la Yougoslavie, je ne sais pas pourquoi. Mais la France, qui, vous savez, c'est la coquetterie absolue. Qu'est-ce qu'ils se sont choisis comme emblème? Le coq. C'est la coquetterie. Mais la France, le Portugal. Il y a toute une sens pour ça. Ça s'appelle la héraldique. Bon, je reviens au sujet. Eh bien, primitivement, dans toutes les sociétés, c'est le peuple qui a le nom. C'est le peuple qui est nommé. Et puis voilà ce qui est arrivé en France. Il y avait une tribu qui s'appelait les Francs. On a pris leur nom, on l'a donné au pays, la France. Et maintenant, il n'y a que des Français. Il n'y a plus des Francs. Je n'ai pas dit que le Français n'est pas capable d'être franc dans le sens adjectif. Mais en général, ils font la monnaie, ils sont sous. Parce qu'avec un franc, ils font 20 sous. Mais pour revenir en tout cas au sujet, il n'est resté qu'un cas dans l'histoire, c'est Israël. Regardez, quand les journalistes, Goy, parle d'Israël, il parle de l'Israël, c'est comme si c'est le pays qui s'appelle Israël. C'est pas le pays, c'est le peuple qui s'appelle Israël. Vous voyez la différence? Donc, alors ne croyez pas que ce sont des choses anodines, ce sont des choses extrêmement importantes que vous êtes en train d'apprendre. Encore une fois, apprenez-les comme vous les avez apprises. Ensuite, quand vous grandirez, quand vous deviendrez des penseurs par vous-même, vous aurez votre propre formulation des choses, mais il n'y a de comment vous dire ça en français? Il n'y a de nuance que de nuance de quelque chose qui existe déjà. Alors, ne jouez pas à ça. D'introduire des mots qui n'étaient pas dans l'étude, ça vous change l'objet de l'étude. Faites un effort de mémoire. Ça y est, c'est clair? Top. Alors, on avance. Donc, cet exemple-là, une minute. Donc, cet exemple-là, c'était un des exemples du sursis que Dieu donne à cette humanité en train d'inventer la civilisation. Et je vous avais dit qu'il y a 7 sursis qui sont donnés au premier échec, qui est l'échec de Caïn tuant Abel. Le sursis de Hanor, c'est le deuxième sursis. C'est clair, on n'aura jamais le temps d'énumérer les 7 sursis. Je vais vous en donner la liste avec les références, en vous donnant quelques petites explications sur chacun de ces sursis, vers ça dans la première heure, qu'ensuite on puisse déjà avancer dans le récit et arriver rapidement à l'histoire des patriarches. Mais retenez en tout cas pour cette introduction, une minute, je ne sais pas si je vais arriver à parler aujourd'hui. Enfin, si je n'y arrive pas, tant pis, on y arrivera quand même. C'est que Israël va apparaître dans l'histoire humaine comme une société humaine qui va avoir dans sa propre tradition les directives et les moyens de résoudre les problèmes qui se posent à la société humaine depuis l'origine. Le premier problème que nous sommes en train de suivre, la première ligne de lecture, c'est la relation de fraternité. Il y a 70 lignes de lecture de ces mêmes textes. J'en ai choisi une. Ne croyez pas que quand on étudie un verset, on étudie tout ce qu'il y a dans le verset. On l'étudie par rapport à ce problème.